vous exprimer combien nous étions heureux de vous voir à la tête de ce GEG. Nous vous assurons de du plein soutien de notre pays pendant votre présidence. Cette session marque une nouvelle phase dans le débat sur les salas dans le contexte du CCAC. Nous pensons qu'il y a une masse critique suffisante pour avancer dans les discussions exploratoires que nous avons eues au cours des 3 dernières années et passer maintenant à une approche plus structurée afin de développer un cadre contraignant juridiquement qui parle du développement, du déploiement et de l'utilisation de salas à des fins militaires. Nous entendons l'appel lancé par de nombreux pays et une grande partie de la société civile qui demande l'interdiction des salas. C'est aussi notre avis que certains systèmes ayant une capacité autonome seront incompatibles avec le DIH et le droit international des droits de l'homme. Et que ces systèmes devraient être envisagés d'être interdits. Cependant, nous n'en sommes qu'à la première phase d'un sujet complexe et nouveau. Il serait inadapté de préjuger la nécessité d'une interdiction sans travailler d'abord sur une vraie définition des salas. Créer une compréhension commune de là où on en est, est-ce qu'on est proche ou pas du développement d'un tel système et de bien comprendre les conséquences de leur déploiement. L'autonomie dans les armes passera pas par un seul progrès des technologies, mais sera le résultat d'étapes successives d'automatisation de certaines fonctions. Tout l'éventail entre l'absence totale d'autonomie et la pleine autonomisation devra faire l'objet d'une ligne qu'il faudra tirer entre les armes qui fonctionnent totalement indépendamment ou celles qui fonctionnent sous direction des hommes. Pour travailler sur là-dessus, il faut que la définition des salas indique le point entre zéro et la pleine autonomie qui différenciera les deux types de systèmes. Il faut bien comprendre qu'au niveau technologique, on avance vers l'autonomisation. Se concentrer uniquement sur les scénarios les plus extrêmes de Salah, alors que certains experts pensent qu'ils ne se matérialiseront jamais, est peut-être intéressant du point de vue intellectuel, mais risque de nous faire passer à côté des progrès technologiques, militaires, juridiques et éthiques qui sont déjà en place. Les définitions sont nécessaires du point de vue technique, du point de vue juridique, et en fin de compte, ces définitions seront l'objet de la considération politique globale qu'on accordera au Salah. Nous avons noté les différentes idées qui parlent de conserver des éléments de Salah qui doivent aller du contrôle humain total à l'autonomie totale. Il faut préciser ceci, l'affiner, la notion qui sous-tend tout cela, à savoir que la supervision humaine doit être imposée à toute arme capable d'une action létale, doit cependant être conservée. Parler du lien humain-machine ainsi que le cycle de déclenchement des programmes automatisés des systèmes d'armes létales semble aller dans le bon sens. Monsieur le Président, la conformité avec le DIH est une obligation juridiquement contraignante qui repose sur tous les États lorsqu'ils ont recours à des systèmes d'armement. Il n'y a pas d'exception possible pour les salas, y compris par rapport aux évaluations des systèmes d'armement tels que celui énoncé par l'article 36 du protocole 1 additionnel aux conventions de Genève. Ces mesures de précaution sont insuffisantes face à la complexité des salas. En ce sens, le Brésil soutient une approche intégrée pour fixer la légalité de ces systèmes qui prennent en compte le lien entre les DIH, le droit international des droits de l'homme et les principes de supervision globale tels que la dignité humaine. Dans le cas de la CCAC, qui est en premier chef un instrument humanitaire, la clause Martens offre une plateforme conceptuelle pour réconcilier ces différentes dimensions et approches. Telle que dit, la considération technique doit informer et guider nos délibérations. Cependant, ça ne doit pas être l'accent principal de nos discussions, sinon on risque de finir sur une discussion sur les performances et les systèmes des machines plutôt que sur les êtres humains. Il faut que l'on évite aussi de traiter les salas de façon à restreindre encore l'accès à la technologie dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. Ils sont associés au SALA, mais ils sont aussi nécessaires pour, à des fins non létales de pertinence socio-économique et développementale, ce que l'on appelle les technologies duelles. Pour ce qui est des effets militaires potentiels de recours au SALA, nous sommes préoccupés par le fait que l'automatisation de la guerre qui réduit la prise de décision quant au recours à la force. Ceci sera déstabilisant et destructeur. De plus, il est nécessaire de réfléchir sur les conséquences des armées de robots dans une situation de guerre galopante. Ceci permettrait d'avoir moins de morts humaines, mais forcerait peut-être les leaders politiques et les sociétés à se plier à des forces involontaire. Le problème de la reddition de comptes est aussi important. La chaîne des événements doit être établie pour connaître exactement la responsabilité des crimes commis par des machines. Cependant, ceci n'est pas simple. Est-ce qu'il doit y avoir forcément un officier qui supervise les machines? Est-ce qu'il y a un commandant militaire qui supervise les opérations? Une volonté politique qui est responsable de la décision de ces machines? Est-ce que les fabricants ont une responsabilité? Le partage de responsabilité ne veut pas dire pas de responsabilité. Mais comment est-ce que les tribunaux pénals internationaux et nationaux vont se pencher sur ce sujet? Il faut que l'on y réfléchisse aussi. Monsieur le Président, nous sommes exposés à une difficulté qui a des conséquences très larges et ce que l'on ne peut pas estimer. À mon avis, à l'avis de mon TBI, ces discussions devraient aller vers un cadre accepté plurilatéralement qui viendrait réglementer le développement, le recours et le déploiement des SALA. Le monde nous regarde et nous devons arriver à des résultats solides. Le Brésil est prêt à s'engager avec les États, les organisations internationales et la société civile pour arriver à des résultats concrets.